Dans la maison où j'ai grandi, à Saint-Vallier-de-Bellechasse, il y avait toutes sortes de petits gribouillages de chiffres à l'intérieur des portes d'armoire. Je me souviens qu'il y avait aussi de vieux micros sur pied en métal lourd, des écouteurs du même bleu-gris militaire et des haut-parleurs identifiés Alphonse Ladouceur. Monsieur Ladouceur, c'est celui qui a vécu dans la maison avant ma famille. Paul-Henri Aymon, un de nos voisins, a produit pendant longtemps une émission hebdomadaire pour la radio locale CFIN.
Des voix et des hommes.
Monsieur Aymon a consacré deux émissions à Alphonse Ladouceur. J'ai enfin retrouvé le fil de l'histoire du monsieur qui avait gribouillé dans les armoires. Il faisait pas que ça, c'était le patenteux du village. Et il prenait les ondes radio sans permission.
Ici, l'humble voix d'Alphonse Ladouceur, technicien en radio et en transcription électrique de Saint-Vallier-de-Bellechasse. Il me fait grandement plaisir aujourd'hui d'enregistrer le talent en musique et en déclamation comique d'un de mes bons copains, j'ai nommé M. Henri Aymon. Il me semble que tu avais quelque chose de comique, là. Dans ce temps-là, tu dois t'en rappeler, mon vieux. On va envoyer une de nos anciennes tunes. Swing Josephine dans le coin de la cuisine. Hi-hi! Allons-y, mais...
Vous écoutez dans le champ lexical l'émission qui tourne autour du mot. Chaque semaine, on fait des entrevues et des reportages autour d'un mot qu'on a choisi. Et le mot, cette semaine, c'est « onde ». Des ondes comme celles sur lesquelles circule présentement notre émission, si vous nous écoutez à la radio, et des ondes comme celles que prenait d'assaut le pirate Alphonse Ladouceur. Notre reporter Sarah Champagne a découpé et remonté les 2 heures de radio que Paul-Henri Aymon a produites à son sujet. Préparez-vous à rencontrer un drôle de monsieur.
Son fameux poste radio amateur, émetteur aussi. Il était très bien connu par son entourage qui pouvait aller jusqu'au-delà d'une trentaine de kilomètres. C'est une espèce de poste émetteur qu'il avait improvisé, radio AM.
On entendait le fils d'Alphonse Ladouceur, Raymond Ladouceur, un major retraité des Forces armées. Et comme les histoires viennent souvent par bribes, les souvenirs sont venus d'autres mémoires valéroises. On écoute Jeannine Aymon-Cadrin.
Il avait fondé la station CSVX de Saint-Vallier, ce qui voulait dire Canada, Saint-Vallier, X pour inconnu, que c'était clandestin, évidemment.
Céline Roy.
Oui, je l'ai connu d'abord parce que c'était notre voisin. Puis à part de ça, ben on savait qu'il y avait un poste de radio qui s'appelait CSVX. Et on allait là le voir le dimanche. Puis il nous permettait de s'exécuter. On chantait, puis ensuite il nous faisait écouter. Et puis après ça, il nous faisait de la musique. Il jouait très bien le violon, il jouait du banjo. Mais le violon, c'était surtout... il jouait là comme un acrobate, comme on peut dire, avec un coup d'archet. Son archet en arrière, son archet en avant. Il jouait les 4 coins de Saint-Malo aussi. Et quasiment pour en défoncer un violon.
Paul-Henri Aymon, voisin et animateur de radio.
Et le moyen de savoir où il allait diffuser, parce qu'il semble qu'il n'y avait pas de numéro prédéterminé, parce qu'effectivement, il était clandestin, hein, tout l'esprit de sa station réside là-dedans. Alors, pour savoir le numéro où il allait diffuser le dimanche, il fallait se rendre... à la messe et sur le perron de l'église après la messe, l'information se passait de bouche à oreille quant à l'endroit du cadran où on s'intoniserait durant l'après-midi, M. Ladouceur.
Le temps fait grisiller la musique. On est dans les années 30, 40, 50. M. Ladouceur enregistrait sur des acétates.
Ces fameux acétates, c'était des genres de disques en métal flexible, recouverts d'une mince couche de plastique, et dont mon père utilisait avec son enregistreuse qui gravait au moyen d'un certain couteau micro-sillon.
Et je pense que l'appareil d'enregistrement que ton père utilisait était une de ses créations, là.
Justement, c'était basé sur de la documentation technique qu'il avait commandée des États-Unis Et puis, au moyen de pièces métalliques, il avait chevronné ses morceaux de base, et puis il ajoutait les morceaux qu'il ne pouvait pas manufacturer lui-même, qu'il avait commandé de ses fameuses manufactures ou magasins américains.
J'ai pas besoin de rappeler qu'à cette époque, on n'avait pas le monde accessible au creux de la main. Prendre les ondes, c'était l'exploit d'un bricoleur vraiment débrouillard. Tout le monde autour se surprenait de son pouvoir de diffusion depuis un studio improvisé. Rénal Blouin et Richard Langlois se souviennent.
C'est à peu près vers la même époque qu'Alphonse avait fait son poste de radio. Tu sais,
justement. Ça, c'est vraiment la goût à tous les dimanches
après-midi. Vous aviez joué à tous les dimanches après-midi, là?
À 2h.
Ah, ça commençait à 2h jusqu'à?
Jusqu'à 4h30, 5h du soir. On jouait pendant 2-3 heures.
Bon, c'est ça. Ouais. Comme ça, le père Alphonse Ladouceur, c'est lui qui avait fait son show. C'est lui qui avait fait.
Ça allait à ça, vu. Saint-Michel, il prenait Saint-Michel à le poste.
Ah, il prenait le poste.
Au commencement de Saint-Michel, il prenait le poste.
À Berthier, il prenait-il?
Et au commencement de Berthier, il prenait aussi. Parce que moi, j'allais à Berthier, puis j'allais à Saint-Michel voir ma femme. Là.
Ouais.
Et puis, Saint-Michel, quand il arrivait à l'heure, il ouvrait le poste pour nous écouter jouer. Alphonse Ladouceur annonçait ça. J'allais attendre jouer un tel.
Un tel, oui, vous jouiez chacun à votre.
Chacun notre tune, des fois, on jouait deux ensemble.
Mais on l'écoutait jusqu'à Berthier, même à l'île d'Orléans, et Saint-Michel, on pouvait prendre. Il ouvrait le dimanche après-midi, le samedi.
Ça fait plaisir de saluer un aimable cousin de Charlebourg, en date du 16 juin 1957. Je crois même qu'il se fasse un plaisir de nous faire de la bonne musique sur son accordéon canadien. Vas-y, mon vieux Fred, Michel Fred Girard, à l'accordéon, accompagné par M. le Tisseur, et deux cousins sur le banjo et l'accordéon. Allons-y.
Ça prenait un méchant patenteux pour prendre les ondes d'assaut.
Il avait monté de ses propres moyens une espèce d'éolienne qui faisait en sorte qu'il créait son propre pouvoir électrique sans se fier au...
À la Québec Power à l'époque, qui deviendra l'Hydro-Québec. Là.
Exactement.
Je sais que ton père, là, Alphonse, m'avait raconté qu'il avait fabriqué des batteries où, pour les charger, les recharger, il utilisait l'éolienne dont tu parles, là. L'éolienne qui était branchée sur un générateur de Cadillac.
Ah ben, tu m'en apprends.
Non seulement il avait construit une radio pour émettre, une éolienne pour produire son énergie, mais il avait aussi fabriqué des récepteurs capables de capter différentes longueurs d'onde. On raconte qu'il avait réussi à intercepter des conversations militaires durant la guerre 39-45. C'était la grande époque révolue des généralistes, son talent le plus insoupçonné, tireur de cartes.
Les gens prenaient un plaisir fou après les vêpres d'aller chez Alphonse au poste de radio. Puis entre chaque musicien qui se produisait, ben, il retirait les cartes aux dames qui voulaient connaître leur amoureux. Ben. Et je dois dire que mes plus beaux souvenirs d'adolescente sont les promenades du dimanche avec mes compagnes. On s'en allait gaiement là, vers la patinoire qui était à proximité de chez M. Ladouceur, qui diffusait à travers un haut-parleur accroché à sa fenêtre et qui nous diffusait des valses de Strauss et des chansonnettes françaises. Ça nous rendait joyeux pour la semaine.
Des gens qui avaient découvert qu'il émettait sans permis et on était venu probablement l'avertir, mais là-dessus, il ne m'a pas révélé plus de détails.
Aucun membre de la famille n'est au courant de ce qui a pu se passer. La fin de ses émissions fut abandonnée vers les années... au début des années 50.
Oui, on allait parfois chez toi, et il ouvrait ça, mais pas longtemps.
Ça va bien.
C'est la grâce que je vous souhaite. Portez-vous bien. Et je vous souhaite une paradis à la fin de vos jours.
Ça me
dans le cadre d'Urbanan, savez-vous.
Ah oui, on va ça. C'est quoi, Alphonse? Je te remercie de ton enregistrement là, que tu viens de faire par midi. J'espère qu'on se reverra encore.
Bienvenue, avec grand plaisir, mon vieux. Bienvenue.
On aura encore l'occasion d'en faire de musique ensemble.
Certainement.
Ah, ben, c'est bien. Salut, là.
Ah! Bonjour, mon nom est Michel Rivard et vous écoutez CIBL FM, la radio que j'écouterais si je pouvais la pogner ou la prendre ou la capter. Non, l'attraper, qu'est-ce qui serait mieux, capter ou pogner, attraper, en tout cas, si j'étais capable de l'écouter. Ça serait en poche chez nous, si vous voulez vous dire.
Vous écoutez Dans le champ lexical, et cette semaine, le mot, c'est onde.
Je m'appelle Geneviève Grenier, je suis ondiste. Une ondiste, c'est une interprète sur l'instrument de musique qui s'appelle Onde Martenot. Un des premiers instruments électriques inventés après la Première Guerre mondiale par Maurice Martenot, d'où le nom. Si on parle un petit peu plus de l'instrument lui-même, qui est un clavier, hein, parce que les gens n'ont pas vraiment l'idée de qu'est-ce que c'est des ondes Martenot. C'est un clavier, mais pour avoir le son, on appuie avec l'index gauche une touche qui est comme une touche de volume, on l'appelle la touche d'intensité. Et cette touche-là, c'est vraiment l'âme de l'instrument. Pour avoir le son, on doit appuyer sur cette touche-là. Plus on enfonce, plus le son est fort, et lorsqu'on retire le doigt, le son s'en va. C'est un instrument, pour moi, qui est vraiment complet. On a une tessiture. La tessiture, c'est la hauteur des notes. Alors, on peut avoir autant les notes aussi graves qu'une contrebasse. On peut monter aussi aigu que le piccolo. Donc, on a une très, très, très grande étendue au niveau de la hauteur du son. On a des nuances vraiment grandes. On peut jouer extrêmement doux. On peut jouer très, très fort aussi. On a un jeu de timbre, ce que la plupart des instruments n'ont pas. Hein? Le violon, il a son son, à moins de tout à coup tourner l'archet puis de taper dessus avec le bois pour avoir un autre son. Mais nous, on a des changements de timbre. Et ça nous permet des fois d'aller chercher plus de nuances. On a un jeu au clavier, comme je le disais tout à l'heure, un jeu au clavier. Et le clavier est suspendu sur des cordes, ça permet de vibrer, d'avoir un vibrato tout à fait naturel, comme un chanteur, comme un violoniste. Donc, on vibre et c'est génial. Là. Si on pouvait pas vibrer, moi, j'aurais une limitation. Et ce qui est merveilleux des ondes, c'est qu'on a aussi le jeu au ruban, une espèce de fil avec une bague qui permet de glisser les sons. C'est vraiment ça qui est caractéristique des ondes au niveau de ce qu'on reconnaît dans la musique. C'est ça qui est utilisé beaucoup dans la musique plus populaire parce que c'est infiniment beau.
Qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend?
Des nuances et mon clavier qui vibre. C'est vraiment un vibrato naturel. Donc, c'est moi qui décide de vibrer comme je veux. Et bon, comme je parlais tout à l'heure, la fameuse bague, le ruban, encore là. C'est un son ininterrompu, mais je peux l'interrompre toujours avec ma touche d'intensité. Et je peux toujours en contrôlant avec ma touche d'intensité, je retire le son, je le fais revenir, sinon... Ça peut être vraiment laid, mais alors on a tout un contrôle du jeu et de l'expression. Et encore là, comme c'est un fil, hein, le fil bouge, il glisse sur des poulies. J'ai encore là un vibrato tout à fait naturel. Tout à l'heure, alors j'ai le son de l'onde pure. Et si j'ajoute plus d'harmoniques,
Alors, on a différents sons. Tout ça pour avoir différentes sonorités et avoir différentes utilisations. Si on veut jouer très, très fort, alors des fois, il y a des pièces qui nous demandent d'avoir un son vraiment plus corsé. J'appelle ça le son moustique.
Allongé sur mon pucier, je me repose les pieds, je me repose l'esprit, sa maman n'a pas de prix. Un moucheron tourne en rond sur le plafond, un moucheron tourne en rond sous le néon. L'amour m'a donné des ailes, avec un peu trop de zèle, j'ai l'esprit qui papillonne, et les oreilles qui bourdonnent, les moucherons tournent en rond, et me couronnent le citron, je suis le roi des moucherons, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond.
Il y en a beaucoup au Québec, des ondistes?
Premièrement, c'est au Québec que ça se passe. Des ondistes, il n'y en a pas ailleurs au Canada, justement, du fait de l'échange culturel beaucoup entre la France et le Québec. D'ailleurs, c'est comme ça que les ondes sont arrivées au Québec, à travers une émission de télé qui a été rendue... l'instrument a été rendu un petit peu plus connu grâce à ça, une émission d'André Laurando, qui était le père de Jean Laurando, qui était mon professeur, Don Martineau, au conservatoire. Donc, lui a décidé d'apprendre les ondes parce qu'il a vu cette émission-là. Mais on a une bonne classe ici, un bon regroupement d'ondistes. Là, on est 5-6. Est-ce que c'est beaucoup? Moi, ça me semble très peu.
Et si on veut apprendre les ondes Martineau, justement, on peut aller au conservatoire en ondes Martineau?
Maintenant, la classe est fermée depuis, je dirais, sûrement une dizaine d'années. Coupure budgétaire, imaginez-vous donc. Mais moi, j'ai étudié au conservatoire. Je suis la dernière élève qui a été formée au conservatoire. Et j'ai terminé, ça fait quand même de très, très, très nombreuses années. Maintenant, si on veut apprendre les ondes, on peut aller étudier en France ou se trouver un professeur si on n'a pas à aller dans une école de vraiment supérieure de musique. Qu'on peut, je veux dire, appelez-moi, je vais vous donner un cours. Ce sont des instruments dispendieux. C'est pas évident là, de pouvoir pratiquer. Là. Moi, en étant au conservatoire, j'ai quand même attendu 5 ans avant d'acheter mon propre instrument, avant d'être sûre, parce que quand on met des montants, en ce moment... pour la modique somme d'autour de 30 000 $ on a un instrument. Alors, il n'y a pas d'instrument de base qui coûte 300 $ pour commencer. On commence tout de suite à 30 000. Alors, il faut être sûr qu'on aime ça. Moi, je joue des ondes pour le son, pour l'âme, pour le jeu qu'on a justement avec la fameuse touche d'intensité, pour le modelage de ce son-là, un son qui ressemble à une voix. Souvent, les gens vont entendre les ondes, ils vont entendre soit une voix, soit un violon, mais contrairement à la voix qui doit à un moment donné respirer, couper sa phrase musicale pour respirer. Les ondes Martineau, on peut avoir une phrase musicale infinie puisque c'est simplement on appuie sur une touche. C'est comme si le souffle était toujours renouvelé sans qu'on coupe la phrase musicale. Et c'est ça qui est fantastique. Et c'est ça qui vient chercher. Moi, je trouve toujours que le son des ondes, ça vient comme décrocher le cœur des gens parce que c'est continu. Au moment où on se dirait hey, ça va couper, il faut bien respirer à quelque part, mais non, ça continue. Puis là, en plus de ça, on peut enchaîner avec un crescendo. Ah là, on vient de mettre quelqu'un à terre. Ah, moi, c'est ce qui me touche dans les ondes et c'est ce que j'aime. C'est l'espèce de contrôle au niveau de l'émotion humaine qu'on a.
Nikola Tesla est un inventeur génial, mais qui d'abord a été mal aimé dans l'histoire de la science. Il a été réhabilité dernièrement par les geeks qui trouvaient tous ses caractères originaux, tous ses traits un peu pathologiques, extrêmement sympathiques. Et donc en retour de grâce. L'écrivain français Jean Echenoz lui a consacré une biographie romancée qui s'appelle « Des éclairs ». Un extrait parlant des expériences de Nikola Tesla sur les ondes électromagnétiques. Il est en effet notoire que dans les monts du Colorado, l'air plus sec et plus clair qu'ailleurs crépite d'électricité statique. Gregor, dans le roman de Jean Echenoz, Nikola Tesla s'appelle Gregor, y trouvera une ambiance appropriée à ses projets, plus nombreux que jamais, et qu'il souhaite remettre au plus vite en chantier. Outre ses expériences sur les ondes électromagnétiques terrestres et atmosphériques, il envisage de mettre au point un système mondial de télégraphie sans fil, et surtout de développer son idée fixe, trouver le moyen de transmettre son énergie gratuite et sans limite jusqu'au fin fond de la planète. Il convient d'abord, dans ce but, de faire construire un émetteur. Le soleil rayonne fort sur le Colorado et de fréquents orages très violents s'y manifestent, produisant même une fois jusqu'à 6000 éclairs dans l'heure. Lieu de recherche idéal, terrain de jeu parfait pour les travaux de Gregor, l'emplacement qui lui est attribué dans la montagne répond en tout cas à son souci de mystère et de clandestinité. Ne l'entoure que des pâturages arpentés par des chevaux indifférents, l'édifice le plus proche étant une institution pour sourds-muets. Bientôt construit, son émetteur consiste en une bâtisse en planches carrées, bourrée de bobines et de transformateurs, coiffée d'une manière de donjon, d'où jaillit un long mât métallique surmonté lui-même d'une sphère de cuivre. Ce mât étant connecté à un puissant oscillateur à haute tension et haute fréquence, Gregor entreprend donc de simuler des orages, d'abord discrets, puis de plus en plus spectaculaires. De telles expériences deviennent bientôt fort bruyantes, mais comme on est loin de tout, il est probable qu'on ne dérangera personne. Elle se déroule d'ailleurs toujours en pleine nuit, quand, tout dormant dans Colorado Springs obscur, la consommation de courant est alors la plus faible et Gregor peut se permettre de puiser sans retenue dans celui de la compagnie locale. Ces nuits-là, dès qu'il va mettre ses appareils en marche, on prend d'abord soin de se protéger. Lui et ses assistants sont juchés sur des semelles de liège, gantés de feutre ou d'amiante isolant et assourdis de coton jusqu'au tympan. Puis, une fois le déclencheur manœuvré, des éclairs éblouissants commencent à succéder, plus denses et prolongés que ceux d'un orage naturel, parcourus d'aigrettes scintillantes, épineuses, frétillantes, avant de relier, sans s'interrompre, tous les paratonnerres de la région dans un rayon de 30 km à la ronde, sous le tumulte des arcs électriques. Tout cela quoique fort sonore, ne dérange pas trop le voisinage, mais il arrive qu'une nuit, dans son enthousiasme, Grégor dépasse les bornes et crée un tintamarre exagéré. Tout, dans Colorado Springs, d'un coup, ne dort donc plus. Réveillé en sursaut par l'énorme volume, les locaux affolés accourent en chemise de nuit, qui à cheval, qui en charrette à bœuf, qui même à pied malgré la distance pour voir ce qui se passe. Une autre nuit, qu'il s'affaire sur son puissant récepteur de radio, Grégor croit percevoir de drôles de bruits paraissant venir d'extrêmement loin, nettement mélodiques et régulièrement rythmés. 30 ans plus tard, on établira qu'il s'agit d'ondes mécaniques provenant en effet des étoiles, mais Grégor, toujours prompt à s'exalter, les attribue gravement et, sans hésiter, à des êtres pensants, très éloignés, autochtones d'autres planètes, Vénus ou Mars au bas mot, dotés d'intelligence, voire scientifiquement plus avancés que nous autres, et qui tentent de communiquer avec lui. Voilà autre chose. Aimant toujours autant se faire remarquer qu'affectionnant le mystère, il n'en faut pas plus pour que Grégor fasse aussitôt savoir qu'il communique avec les Martiens. Cette déclaration est reproduite avec joie dans tout le pays par les journaux qui adorent ça, qui ont repéré Grégor depuis longtemps comme un sujet en or, qui ne manquerait pas pour un empire l'occasion de le tourner en ridicule, cependant que la communauté scientifique, grave et compassée, apprécie moins ce genre de numéro. Content de cette nouvelle publicité, et d'autant plus las de vivre à la campagne qu'il y est chaque jour plus impopulaire, Grégor décide de rentrer à New York. Il boucle fébrilement ses valises tout en réfléchissant, à présent agité par une lancinante question. Que répondre aux Martiens? Et comment? C'est un extrait du roman « Des éclairs », une biographie romancée de Nikola Tesla par Jean Echenoz, paru aux éditions de Minuit.
Histoire de vinyle fondu avec Yves Bernard, animateur de l'Entremuse et vétéran CIBélien.
Tu veux une anecdote?
Oui, je veux une anecdote d'une de tes nombreuses années à CIBL.
Un jour, j'étais en train de faire l'animation puis la mise en onde en même temps. On était le matin, puis j'étais responsable d'une émission, il y avait bien du monde. Puis dans ce temps-là, c'était les vinyles. Ça fait qu'on parlait au micro, puis le micro, la petite lumière se fermait, puis on cueillait nos vinyles. Puis ça fait que je fais ça, je cueille mon vinyle, tout est beau. Genre, on recommence à parler 4-5 minutes, clac, je pèse sur play pour partir mon vinyle, puis là, on entend... Là, je savais pas ce qui se passait. Fait que là, je cueille bien vite un autre vinyle, tout en parlant, en disant n'importe quoi, des niaiseries, tu sais comment après, quand on est nerveux des fois. Une petite minute, puis là, un autre vinyle part, puis là, le vinyle est correct. Fait que là, je recommence à parler après, puis je recueille un autre vinyle, puis je recommence à parler, puis là, le troisième vinyle, comme ça. Fait que finalement, c'est deux, trois vinyles de même. C'est des disques à l'époque, là. On les payait, nos disques, hein, puis c'était des disques d'importation. C'était de la chanson qui venait de France, s'il vous plaît. 83, 84, les Renault, on passait ça avant tout le monde, même avant Radio Cannes. Puis, au bout de trois vinyles, je commence à me demander ce qui se passe. Je regarde un peu partout, puis je me rends compte que sur les vinyles, par-dessus les vinyles, il y avait une lumière. Puis il y avait quelqu'un qui avait décidé de, je sais pas, il avait besoin d'une ampoule. Fait qu'il avait changé l'ampoule qu'il avait, puis il l'avait remplacée par une ampoule de 300, 400, 500 watts, je sais pas trop. Ce qui fait que cette ampoule-là faisait fondre les vinyles. Fait que ce qui fait que quand je cueillais le vinyle, tout était beau, mais 3-4 minutes après, le vinyle avait littéralement fondu, d'où le son.
Yves Bernard, animateur de l'Entremuse le mardi soir, a des années de direct derrière lui. Il aurait sans doute pu remplir une émission complète avec ce genre d'aventure survenue alors qu'il était en onde. Vous écoutez Dans le champ lexical et nous tournons justement cette semaine autour du mot « onde », en espérant très fort que le fichier de l'émission ne se mettra pas à tourner au ralenti au cours de la prochaine demi-heure. On va tamiser les lumières au cas où.
Les vagues, ça va et ça vient. C'est une musique apaisante de vacances. On a l'impression que l'eau bouge au gré des marées, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. C'est toujours les mêmes gouttes d'eau qui frôlent le rivage. Parce que les vagues, c'est une onde qui pousse l'eau avec énergie. Mais le professeur au département d'ingénierie de l'Université du Québec à Rimouski, Éric Hudier, a de bien meilleurs mots, beaucoup plus savants, pour vous l'expliquer.
Ce sont des ondes de type onde de gravité, c'est-à-dire que sans l'attraction terrestre, elles ne pourraient pas se propager. Dans ces types d'ondes, vous allez rassembler plusieurs ondes qu'on a l'habitude de croiser sur nos côtes, donc la marée, les vagues, qu'on va utiliser le terme houle pour le régime des vagues au large. Si vous traversez le fleuve avec le traversier, vous allez vous faire brasser par ce type de vagues de courte longueur d'onde. Et celles qui attirent le plus l'attention des gens, ce sont les tsunamis, qui rentrent également dans cette même catégorie. Donc, toutes ces ondes-là rentrent dans la catégorie onde de gravité.
Et ces ondes-là sont influencées par plusieurs choses à la fois.
Oui, les houles, les vagues qui vont déferler sur nos rivages, elles rentrent dans le type d'ondes qui sont générées par l'action du vent, l'action de l'écoulement de l'air sur la mer. Lorsque le vent souffle à la surface de la mer, il va mettre en mouvement les molécules d'eau. Et ce mouvement va se structurer à l'intérieur du fluide, de l'eau. Les molécules d'eau fondent sur place, en fait. Quand on voit une vague passer, on a l'impression que l'eau avance, mais l'eau n'avance pas, elle fait du surplace. Elle tourne, les molécules d'eau tournent à la verticale, ils décrivent un mouvement circulaire, mais le mouvement apparent de la vague qui se propage est en fait la propagation de l'énergie. C'est l'énergie qui avance et non pas la matière. La matière, elle fait du surplace. Donc ça, ce sont les vagues qui sont générées par l'écoulement de l'air à la surface de la mer. Deuxième catégorie, les marées. Les marées, elles sont induites par le mouvement relatif des planètes. En fait, dans planète, on va entendre la Lune versus la Terre, donc le mouvement relatif de la Lune et de la Terre, parce que on a l'habitude de penser que la Lune tourne autour de la Terre, mais en fait, les deux astres décrivent un mouvement de rotation autour du centre de gravité du système, un peu comme le bâton de Majorette va tourner autour de son centre et les deux extrémités pouvant illustrer la planète Terre et la Lune. Le mouvement de rotation se fait autour du centre de gravité. Donc là, on parle du mouvement relatif de la Terre, de la Lune, et également du Soleil. Donc ça, ce sont les trois mouvements qui sont à considérer. Donc le mouvement 1, 2, la gravité. Donc la gravité lunaire, la Lune attire la Terre, tout comme la Terre attire la Lune. Et en même temps qu'elle attire la Terre, globalement, elle attire également toutes les molécules de la surface de la Terre, dont les molécules d'eau qui sont à la surface des océans. Lorsque la surface de l'océan est plus proche de la Lune, l'attraction est plus forte. Lorsque la molécule d'eau est de l'autre côté de la planète, donc au plus loin de la Lune, l'attraction est moins forte. Et de ces deux côtés-là, ça va générer des forces qui seront à l'origine du phénomène de marée. En fait, la marée réelle que vous allez observer sur vos côtes, c'est l'interaction de plusieurs ondes. Donc cette marée réelle va être plus complexe que simplement un phénomène périodique à toutes les 12h25 minutes revient à la même hauteur. C'est pourquoi vous allez avoir des marées plus fortes à tous les 15 jours. Ça, c'est l'interaction de l'onde de marée générée par le système Terre-Lune et de l'onde de marée générée par le système Terre-Soleil. Et on va avoir un troisième phénomène que les gens connaissent bien, c'est la variation entre les périodes d'équinoxe et les périodes de solstice, les équinoxes se déroulant au mois de septembre et au mois de mars, et le solstice au mois de juin et au mois de décembre. En phase d'équinoxe, on va avoir généralement des marées qui vont être plus intenses. Donc pour avoir les marées les plus fortes, il faut aller chercher les périodes d'équinoxe, lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, sont globalement sur la même ligne. Là, on va avoir les marées les plus importantes.
Je crois. Je suis dans les studios donc de CIBEL, les anciens studios donc sur P9. Je fais mon émission à la console, je fais un peu de tout en même temps, puis là, fait noir. Ben, il fait pas noir. En fait, tout s'éteint. La lumière sur la console s'éteint, les lecteurs CD s'éteignent, et je suis en onde en direct là. Il y a une espèce de moment de silence et de panique intérieure. Puis là, je dis, bon, il y a une panne de courant. Et là, je marche, je me lève dans la station, je vais dans le corridor et je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu paniqué. Et là, il y a Paul Beauséjour, un employé de la station qui est là depuis très longtemps, qui se gratte un peu le menton puis il fait, attends. Et là, il sort des fils d'un tiroir, il branche deux fils à RCA dans une prise, puis il y a comme une espèce de grosse. C'est là où tout était les fils, des trucs techniques. Ils ont tiré une grande porte à coulissante, puis c'était tout poussiéreux là-dedans. Il branche deux, trois affaires, il déplanche deux, trois affaires, clac, clac, il me donne un fil avec un jack, un cas. Il dit, tiens, t'as-tu un iPod? Ouais, ben tu peux faire jouer en direct comme ça avec ça. Fait que là, je branche mon iPod que j'ai pas prévu pour ça, là. J'ai la musique que j'ai dedans, et là, je le branche, puis je cherche, puis je fais play. Fait que là, en ondes, je peux pas parler, mais il y a de la musique au moins. Fait que ça a été comme la survie sur les ondes de CIBEL pendant un bout de temps avec ça. Je pense que ça a duré 25-30 minutes à mémoire, et là, on m'a tiré une chaise parce que j'étais debout dans le corridor, que je me suis assis au moins, c'était un peu plus confortable. Là, le monde passait en dessous du fil, au-dessus du fil, quand il voulait passer dans le corridor, puis j'ai fait jouer pas mal tout ce que j'avais de musique francophone dans mon iPod, puis m'en est revenu, fait qu'on est revenu en ondes, puis on a dit, bon, ben, on est revenu, désolé pour l'interruption, puis c'était fini.
C'est très bon.
C'est pour vous?
Vous écoutez Dans le champ lexical, et cette semaine, le mot, c'est onde.
En novembre 2011, toute la tribu sibélienne emménageait dans les nouveaux studios du 222. À l'époque, les travaux de construction du bâtiment n'étaient pas tout à fait terminés. Ce qui, un bon matin, donna lieu à ce mémorable moment de radio.
Tout à fait. Hier, au micro ouvert, donc j'ai pu assister et voir des jeunes originaires d'un peu partout dans le monde font la promotion avec enthousiasme. Et...
On a un petit accident ici.
Un petit accident avec...
En direct.
En direct au 222 coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine. On va repartir en musique et désolé oui. Abdou, on va y revenir.
Les oranges pressées.
Toujours sur les ondes de CBS 5 Montréal, nous sommes désolés de ce petit contretemps. Imaginez, il y a une grue juste, en fait, qui était stationnée juste en avant du 222 de notre studio principal sur la rue Saint-Laurent, qui a défoncé la vitre de notre studio principal. Alors, on s'est retrouvés, on avait une entrée VIP sur la rue Saint-Laurent. On pouvait accéder directement au Café Cléopâtre et écoutez, ça nous a pris un peu par surprise, hein? Surtout que personnellement, j'étais de dos et même les co-animateurs qui se trouvaient de face à la vitre, disons que ça s'est arrivé assez rapidement, que malheureusement, on n'a pas eu le temps de prévoir ce qui allait arriver. Martin, d'ailleurs, arrive à l'instant du studio principal et je crois que tu vas tweeter une petite photo de l'événement.
Ah, mais ça se doit. Oui. Mais bon, c'est presque ramassé en bas, là, les ouvriers qui s'affairent à ramasser le verre brisé. On espère évidemment que ce ne sera pas trop long avant qu'on puisse réintégrer notre cher Studio A.
Donc, alors, on se retrouve au deuxième étage du 222 où on a d'autres studios de diffusion, heureusement.
Elle revient souvent ce dimanche. Toi. Sont les nouveaux paysages. Où y a une vue, y a des clôtures. Relâche les loups et les étoiles. Enfarine. La pire des viandes devient supportable. Une fois roulé dans la chapelure, le temps est mieux de filer tout. S'il me veut en un morceau, je saurai faire ce qui. Faire pour une fois, c'est plus fort dans les nouveaux paysages. Le risque de se beurrer les doigts quand nous boirons. Gratuit. me pose sur le cœur. Tant est mieux de filer s'il me veut en un morceau. Je saurai faire ce qu'il faut au bon moment. Tant est mieux de filer s'il me veut en un morceau. Tu seras
Si vous avez été bon élève au primaire, vous savez sans doute que le fait de pincer une corde d'une guitare, d'un violon, d'un autre instrument à cordes, crée une onde sonore. Les cordes qui produisent ce genre d'onde s'appellent des cordes vibrantes. Et même, il se peut, si vous aviez un professeur le moindrement allumé en maternelle que vous avez fabriqué vous-même, votre propre petite guitare avec une boîte de Kleenex vide et trois élastiques. Boing, boing, boing. Mais vous êtes-vous jamais demandé comment calculer exactement les ondes de ces cordes vibrantes? Comment savoir la hauteur du son produite par une corde selon sa grosseur, la grosseur de la corde? Vous avez déjà remarqué, par exemple, sur une guitare que plus l'on veut un son aigu, plus la corde est mince, plus on veut un son grave, plus la corde est grosse. Et pourquoi? Comment calculer aussi combien plus aigu sera le son si on a un manche plus ou moins court ou si on place ses doigts sur le manche de la guitare pour raccourcir la corde? Vous vous êtes déjà posé ces questions? Si, vraiment? Eh bien, Jean-Laurent d'Alembert, donc le co-auteur ou co-directeur avec Diderot de l'Encyclopédie, paru au 18e siècle, était non seulement encyclopédiste et philosophe, mais également un mathématicien fort brillant. Or, il est le premier à avoir résolu par une équation la façon de calculer justement les ondes produites par les cordes vibrantes. Et là, pour suivre l'explication, je pense qu'il faudrait que vous vous souveniez vraiment bien de vos mathématiques de secondaire, voire de cégep. J'espère que vous n'avez pas pris science humaine sans maths. Suivez-moi. Je cite Jean-Laurent d'Alembert dans son opuscule mathématique ou mémoire sur différents sujets de géométrie, de mécanique, d'optique et d'astronomie. Je donnerai d'abord une solution nouvelle du problème des cordes vibrantes, encore plus simple que celle que j'ai donnée dans les mémoires déjà citées. J'y joindrai quelques remarques relatives à cette solution et l'application de ma méthode à différents problèmes sur les vibrations des cordes sonores. Je répondrai ensuite aux objections de messieurs Euler et Bernoulli. Il faut comprendre que c'est un mémoire qu'il adresse à l'Académie des sciences, donc il est en train de discuter avec d'autres savants mathématiciens. Attention, prenez papier et crayon. Soit AMB. Une corde en vibration. AP égale X, PM égale Y, AB égale A. On suppose que les vibrations sont fort petites. Et si on peut faire grand M, petit m égale DX. L'ordonnée PM ne peut être qu'une fonction de l'abscisse X et du temps T écoulé depuis le commencement du mouvement. Et si on imagine que la corde se meuve de P vers M et qu'on nomme F la force retardatrice du point M, P, la pesanteur, on aurait d dy sur dt à la 2 égale fx se sur p infini à la 2. Ça y est, je pense que je vous ai perdu. Or, la force retardatrice F est égale à la force de tension multipliée par l'angle de contingence en m et divisée par la petite masse à mouvoir, grand M petit m ou dx. La force de tension peut être supposée égale PMA, c'est-à-dire en raison de m à 1 avec le poids de la corde PA, A étant la longueur de la corde et P la gravité. Et l'angle de contingence est, bien sûr, ddy sur dx en ne faisant varier que x. Donc, faisant la substitution et supposant, ce qui est permis, hein, vous allez me le permettre, il faut que je ralentisse pour que vous notiez. Ou, plus simplement, y égale epsilon, en parenthèse, x plus, c'est mal imprimé, tiens, plus t, je crois, à la 2, plus tétra, en parenthèse, enfin, fois x moins t à la 2. C'est l'équation générale des cordes vibrantes, attachées ou non par deux points fixes. Ah, c'est bien qu'il nous le précise parce qu'on ne savait pas si la corde était attachée à deux points fixes. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Vous êtes tous capables maintenant de calculer les ondulations des cordes vibrantes et leur longueur d'onde et de faire des boing-boing absolument musicaux grâce à l'équation de Jean Leron d'Alembert, publiée dans son opuscule mathématique aux mémoires sur différents sujets de géométrie, de mécanique, d'optique et d'astronomie, publié en 1761.
Maurice Bauduc National nous confesse la fois où il s'est endormi en onde.
Donc, 31 décembre, l'année, je suis pas sûr, 97 ou 1998, j'étais DJ pour le 31 décembre au soir, donc on pète l'année comme DJ. On défonce l'année, la nouvelle et l'ancienne. J'étais DJ au Lion d'Or, donc pour le 31 décembre, 1er janvier. Et le matin qui suivait, je faisais la présentation musicale du 1er janvier au matin, 6 heures le matin, jusqu'à midi peut-être, le 100% francophone, 1er janvier. Donc là, j'arrive, je fais mon set DJ, j'arrive à CIBL vers 4 heures du matin pour me préparer pour 6. À 6, j'entre en onde, ça va bien. Rendu vers 7h10, je fais jouer le voyage de Raoul Duguay. Pour ceux qui la connaissent, c'est une longue pièce, très planante, très belle pièce, mais c'est très planant, très relax. Ce qui fait que, comme j'avais passé une nuit blanche durant cette pièce-là, je me suis endormi, c'est ce qui fait que ça a occasionné un blanc de 10 minutes en onde. Je dis 10 minutes parce que ce qui s'est passé, la pièce a joué, je me suis assoupi durant la pièce. Donc, la pièce a fini, comme elle durait 10 minutes, ça a joué jusqu'à 7h20. Et tout d'un coup, par réflexe, je me suis levé la tête par réflexe, tout d'un coup, il était 7h30. Et je me suis étiré le bras. À l'époque, nous avions des cartouchières, on diffusait les pubs sur cartouche. J'ai pesé sur le bouton de la cartouchière pour repartir le show et je me suis réveillé.
Dans le champ lexical cette semaine. Ont participé à l'élaboration de cette émission Mathieu Charlebois, Christiane Campagna, Sarah Champagne, Nancy Caouette et Joannie Larue. Merci à notre coffre à savoir et historienne Chloé Barry. Allez CIBL, on te quitte les ondes! Jusqu'à la semaine prochaine pour le mot « canal ».
Vraiment, vraiment dit en onde, ici Christiane Campagna au micro-ondes.